Alors, bonjour à tous. Moi, je suis heureux d'être parmi vous pour ce message. Ça fait un petit moment déjà qu'on ne s'est pas vu. L'été est passé, puis on ne s'était pas encore vu, mais c'est une joie d'être ici, parmi vous. Et déjà, je peux dire que le Seigneur nous a touchés par les chants, par les témoignages, et on croit qu'il est là et qu'il va continuer à nous bénir ensemble. Alors, le thème que j'aimerais développer avec vous cet après-midi, c'est le thème du projet de Dieu. Nous, les chrétiens, on croit que Dieu a un projet et qu'il nous fait entrer dans ses projets. Alors, notre passage d'après-midi, ce sera dans le livre de Josué. Et le texte que je vais lire tout à l'heure nous parle beaucoup, à plusieurs reprises, du projet de Dieu. Donc, il y a beaucoup d'enseignements dans ces chapitres au sujet du projet de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on s'arrête et on a prié, mais qu'on remette une fois de plus ce moment important entre les mains du Seigneur. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous guide. Merci pour l'autorité des Écritures dans nos vies. Et merci parce que ton amour nous cherche et tu nous donnes ta parole pour que nous puissions être transformés et grandir et être à ton image. Alors, donne toute liberté aujourd'hui pour que cette parole puisse nous transformer au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a un peu plus d'un an, c'était à la une du journal L'Express du 21 mai 2016, on lisait le titre suivant. Lester, champion d'Angleterre, comment l'impossible est devenu possible. Waouh. Alors, il faut savoir que l'année auparavant, le petit club de foot se battait pour rester en Ligue 1. Une saison plus tard, il remporte le premier titre de son histoire en mettant à genoux tous les favoris du championnat anglais. Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City. Des grosses pointures. Imaginez, un club sorti de nulle part qui jouait en troisième division à peine 7 ans auparavant et en deuxième division 2 ans juste avant. Et là, ce club l'emporte. Quelle surprise! Un club que personne ne prenait au sérieux. Une équipe Cendrillon, un petit poussé du foot. Champion d'Angleterre. Pensez à toutes les équipes qui ont été battues par Leicester cette année-là. Ils ont dû se refaire le match, encore et encore dans la tête. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Mais voyez-vous, pour nous, il y a aussi de ces échecs qui nous restent au travers la gorge, n'est-ce pas? Un concours, un examen, une compète. On arrive, on est confiant. On pense qu'on va réussir facilement, mais ce jour-là, il n'y a rien qui va. Quelle déception! Un peu comme Alain Juppé au primaire de la droite. Dur! Hillary Clinton aux élections présidentielles américaines. Aïe, aïe, aïe! Alors cet après-midi, le texte qu'on va lire nous parle d'échecs inattendus. Défaite colossale. Cinglant. Mais avant de regarder le texte de plus près, j'aimerais qu'on revienne brièvement sur ce qui s'est passé jusqu'à présent dans le livre de Josué. Vous donner un petit contexte du livre de Josué. Alors, au chapitre 1, Dieu a d'abord confirmé le ministère de Josué. Josué, vous savez, c'est le successeur de Moïse, et Dieu lui a fait des promesses exceptionnelles. Dieu lui a dit « Je serai avec toi comme avec Moïse ». « Je te donne le sol où ton pied foulera. » Parce que voyez-vous, c'était pas facile de venir après un leader comme Moïse. Ce serait un peu comme dire à un jeune joueur « Remplace Cristiano Ronaldo au sein du Real Madrid. » Pas facile. Les chaussures sont grandes à porter. Et Dieu là rassure son serviteur. « Ne crains pas. Fortifie-toi. » Prends courage. Ensuite, le Seigneur sépare les eaux du Jourdain, comme il l'avait fait pour la mer Rouge avec Moïse. et le peuple a traversé à sec. Un miracle extraordinaire. Et puis le peuple a célébré la Pâque. Il faut savoir que c'était seulement la troisième fois de son histoire que le peuple d'Israël célébrait la Pâque. Pendant les 40 années dans le désert, le peuple d'Israël n'avait pas célébré la Pâque. Et là, ils ont célébré la Pâque. Et avant le début des conquêtes, au chapitre 5, le commandant en chef des armées, un personnage mystérieux dont on va reparler un peu plus tard pendant le message, le commandant en chef des armées est apparu à Josué. Josué l'a adoré et il a reçu de lui ses instructions. Ça, c'est le chapitre 5. Enfin, chapitre 6, le chapitre immédiatement avant le texte qu'on va lire maintenant. Sous la direction de Josué, le peuple est parti vers Jéricho et Dieu a donné aux Israélites une première victoire extraordinaire, époustouflante, spectaculaire. Ça, c'est Josué 6. Mais ce qu'on retient, c'est pas seulement la victoire, mais c'est aussi la manière de gagner. Comment le peuple d'Israël a gagné au chapitre 6. Alors, ce qui est à remarquer, c'est qu'Israël n'a pu tirer aucune gloire de sa victoire dans le chapitre 6 de Josué. Aucun soldat n'a accompli d'exploit personnel, pas même Josué. Le vrai héros de l'histoire du chapitre 6, c'est Dieu. C'est Dieu. C'était la soumission au projet de Dieu qui avait permis à Josué d'entrer dans une ville qui était jusque-là réputée imprenable. Et comme il était écrit au chapitre 1, Dieu avait donné du succès à Josué dans toutes ses entreprises. Pourquoi ? Parce qu'il avait obéi à tout ce que Dieu avait prescrit. Tout se passait donc à ce moment-là comme prévu. Mais vous vous en souvenez peut-être, si vous avez lu le texte du chapitre 6 dans Josué, Dieu avait commandé au peuple de ne pas garder le butin après la victoire. Il fallait tout vouer par interdit. Tout devait être consacré à Dieu. Les vies humaines, le bétail, les objets de valeur, tout. Rien ne devait être pour l'homme. Ça, c'était après la victoire de Josué 6. Et ça, c'est un principe qu'on retrouve dans la loi de Moïse, n'est-ce pas ? Les premiers-nés, les premiers fruits des récoltes, les prémices de ses revenus devaient appartenir à Dieu. On retrouve ça dans la loi de Moïse. Et ici, au chapitre 6, le chapitre précédent, on a vu que Israël obtient sa première victoire et Dieu demande que le butin lui soit réservé. C'est-à-dire les prémices, les premiers fruits du pays de Canaan à Dieu. Canaan devait, dans ses premiers fruits, appartenir à Dieu seul. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi ce principe ? Pourquoi ce principe ? Parce que Dieu voulait enseigner à son peuple qui se préparait à entrer dans le pays promis que dans son projet à lui, il passe lui toujours en premier. Voyez-vous cela ? Un enseignement pour que le peuple comprenne que dans son projet, Dieu passe en premier. Et on retrouve ce même principe dans le Nouveau Testament. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Dieu en premier. Jéricho est donc conquise. Et à la fin du chapitre 6, tout semble baigné pour le peuple de Dieu, on pourrait dire. Hein ? Je lis le verset 27 à la fin du chapitre 6. Il est écrit « Le Seigneur fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. » Début fulgurant. Israël gonflé à bloc. Josué entre dans le projet de Dieu par la grande porte, on pourrait dire. C'est glorieux. Mais remarquez, si vous avez vos Bibles ouvertes, le début du chapitre 7. Il y a un contraste frappant que Josué veut nous faire voir ici. Si on lit le verset 1, dans l'original, la phrase commence par le mot « mais ». Mais les enfants d'Israël commirent une faute. Mais c'est un petit mot au début d'une phrase. Et quand on le retrouve, ce petit mot au début d'une phrase, il faut être attentif. Mais, au chapitre 6, on vient de parler d'humilité du peuple de Dieu, de soumission, d'obéissance, de confiance, de bénédiction, de victoire. Mais, à l'insu de Josué, sans que la majorité des troupes d'Israël le sache même, il y a une faute grave qui a été commise. Le péché d'Achan. Personne n'avait jusque-là remarqué. Un seul homme qui désobéit et tout bascule pour le peuple. Alors j'ai intitulé le message de cet après-midi « L'autopsie d'une défaite et les leçons qu'on peut en tirer ». J'aimerais qu'on lise maintenant Josué chapitre 7. On va lire des versets 1 à 15, les 15 premiers versets, puis chapitre 8, versets 1 à 7 et 25 à 27. Je vais lire les textes. Chapitre 7, 1 à 7. Un instant. Voilà. Le texte. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Et il leur dit, « Montez et explorez ce pays. » Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Chebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosternant jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, ils couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et pour nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain !» De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi! Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulées et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. » « Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. » Verset 14, « Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. » Et là, on sait que c'est la famille d'Achan et Achan qui a été désigné. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. C'est la partie du chapitre 7 et maintenant le chapitre 8. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Prends avec toi tous les hommes de guerre et lève-toi, montez, attaquer Haï. Regarde, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Toutefois, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Josué se leva avec tous les hommes de guerre pour monter attaquer Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville, ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tout prêts. De mon côté, avec tout le peuple qui m'accompagnera, nous, nous approcherons de la ville et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux et nous poursuivrons jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils se diront « Ah, ils fuient devant vous comme la première fois » et nous prendrons la fuite devant eux. Vous quitterez alors votre cachette et vous vous emparerez de la ville et l'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Et quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu. Vous agirez comme l'Éternel l'a dit. C'est l'ordre que je vous donne. Il y eut au total, verset 25, 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes confondus, tous habitants d'Haï. Josué ne retira pas la main qu'il tenait tendue avec le javelot tant que tous les habitants ne furent pas exterminés. Toutefois, Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné à Josué. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Quel texte ! J'aimerais relever avec vous quelques éléments qui expliquent le changement entre le chapitre 6 et le chapitre 7. Avez-vous remarqué le contraste qu'il y a entre le chapitre 6 et le chapitre 7? Essayons d'expliquer pourquoi ce contraste. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout d'abord, premièrement, le manque de prière. Le manque de prière. Au chapitre 5, quand Josué rencontre le chef de l'armée du Seigneur, il l'adore et lui demande « Que m'ordonnes-tu ? » Il prie. C'est le verset 13 du chapitre 5. Alors ici, il faut dire que plusieurs théologiens pensent que ce commandant de l'armée céleste, c'est une manifestation du Fils de Dieu dans l'Ancienne Alliance. C'est Jésus-Christ pré-incarné. Il est venu et il existait en tant que Fils de Dieu dans l'Ancienne Alliance. On pense que c'est lui-là. Alors, Josué prend le temps de demander à Dieu son avis. On le voit bien. C'est ce que Dieu attend de son peuple, qu'on le consulte. Pourquoi ? Parce que Dieu veut nous diriger et on a besoin de le consulter. Mais là, non. Là, non. Au début du chapitre 7, on ne retrouve aucune trace de prière, pas d'adoration, pas de temps passé dans la présence de Dieu pour discerner sa direction. Josué agit selon sa sagesse à lui. Combien c'est important de chercher la face de Dieu avant d'agir. Attention au manque de prière. Ne négligeons pas la prière ici à l'église de Saint-Maur. Donc, manque de prière. Deuxièmement, l'excès de confiance du peuple de Dieu. Au chapitre 6, Israël manifeste sa dépendance de Dieu en faisant tout ce que Josué demande, même si ça paraît illogique. C'est vrai, hein ? Quand on y pense, faire le tour d'une ville fortifiée, sonner de la trompette, crier et les murs vont tomber. Alors vous parlez à n'importe quel stratège militaire, il vous dira ça, c'est pas la bonne manière de faire. Et pourtant, ils ont obéi. Dépendance de Dieu. Au chapitre 7, les espions s'appuient sur leur propre logique. On pourrait les entendre discuter entre eux. « Hey les gars, si on a pu vaincre une ville fortifiée comme Jéricho sans trop d'efforts, ben pas besoin de s'inquiéter pour la suite. Aïe, c'est une toute petite ville, 12 000 habitants seulement, pas de forteresse. Alors, on va partir avec 2 000, 3 000 hommes, hein ? Ça devrait suffire. » Voyez ? Ce qu'ils disent là, ça paraît logique. Mais Israël pêche par excès de confiance. Israël minimise la force de l'adversaire et se croit plus fort qu'il ne l'est en réalité. Ça vous est déjà arrivé à vous, ça ? En face d'un défi, en face d'une tentation, se voir plus fort qu'on est en réalité, sous-estimer l'adversaire comme les grands clubs anglais contre Leicester, le petit pousset. Manque de dépendance envers Dieu. Et c'est pas sans raison que l'apôtre Paul s'est senti poussé à exhorter les Corinthiens dans sa première lettre. Les Corinthiens qui se croyaient forts, Paul leur dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Attention, manque de prière, excès de confiance. Josué 7, en fait, nous rappelle qu'il faut avoir la bonne perspective par rapport à nos adversaires. Vous savez, en face de nos défis, il y a toujours deux pièges à éviter. Le premier, c'est la peur. Vous vous souvenez des espions que Moïse a envoyés en terre de Canaan ? Ils étaient 12. Et il y en a 10 qui ont vu les géants et ils ont pris peur. Et ils ont été paralysés. Ils ne voulaient pas retourner. Le premier, c'est la peur. Quand on a peur, l'ennemi semble toujours plus grand qu'il est en réalité. Et on oublie aussi la grandeur de Dieu. On exagère la force de l'ennemi. On oublie la force de Dieu et ça nous paralyse, la peur. Deuxième piège à éviter par rapport à nos ennemis, c'est l'orgueil. Qu'est-ce qui se passe quand on est orgueilleux? On voit l'ennemi plus petit qu'il est en réalité. Hein? On se croit grand et l'ennemi est petit. On minimise le danger. Alors comment est-ce qu'on peut avoir la bonne perspective dans nos combats? Eh bien, je dirais qu'il y a seulement Dieu qui nous permet de voir l'ennemi comme il est vraiment. Rendons-nous compte que tous nos défis, toutes nos tentations, toutes nos épreuves seront plus fortes que nous si on essaie de les affronter tout seul sans Dieu. Mais rendons-nous compte également que tout cela, ça va être toujours plus petit que Dieu si on se confie en lui, n'est-ce pas ? Josué et ses troupes ont mal évalué la population d'Aï pour leur plus grand malheur. Alors on le dit souvent et je le répète, on ne peut pas refaire l'histoire. Parfois on aimerait rembobiner, on a vécu des choses difficiles et si on pouvait seulement refaire l'histoire. Ici on ne peut pas refaire l'histoire, mais imaginez un instant si Josué et les anciens avaient pris le temps de prier avant de partir combattre Aï. Si Israël ne s'était pas appuyé sur sa propre logique, s'ils avaient choisi de dépendre de Dieu en l'invoquant, imaginez un instant. Dieu aurait pu révéler à son peuple la faute d'Achan. Et quelle différence aurait pu faire dans la vie du peuple, n'est-ce pas? Mais comme le peuple a choisi d'agir selon sa propre logique, les conséquences ont été désastreuses. Alors, jetons justement un coup d'œil maintenant sur les conséquences du péché d'Achan. La première, la plus immédiate, c'est la mort de 36 hommes. La mort de 36 hommes. 36 soldats, des frères, des vaillants combattants, des personnes de valeur, leurs femmes et leurs enfants sont précipités dans un deuil prématuré. Israël est privé d'une partie de ses forces vitales pour les combats à venir. Et ça, ça nous interpelle, n'est-ce pas? Nos péchés secrets peuvent aussi causer beaucoup de douleurs. Par exemple, une personne qui va partir avec sa voiture le soir, il n'y a personne dans les rues, on se dit « personne ne va savoir ». Tu conduis en état d'ébriété, tu fauches une personne. Imaginez le malheur pour toute une famille. Ou parfois, les rumeurs. On se dit personne va savoir. Et on dit des choses fausses par rapport à une personne. On détruit la réputation de la personne. Les conséquences terribles. Les fautes cachées qui peuvent produire beaucoup de douleur. Deuxièmement, là il y a eu 36 morts. Première conséquence. Deuxièmement, le peuple perdit tout courage. Voyez-vous cela? Le texte nous dit que leur cœur s'est liquéfié comme leurs adversaires au chapitre 6. Au chapitre 6, on disait que c'était les habitants de Jéricho qui avaient un cœur qui devenait liquide. Maintenant, c'est Israël qui a le cœur qui devient liquide. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont terrorisés, ils ont perdu courage. Voyez-vous, quand il y a des péchés cachés dans une assemblée, Dieu retient sa bénédiction. On ne comprend pas toujours ce qui se passe. Et on peut se dire, mais pourquoi Dieu ne bénit pas? Et il y a des personnes qui travaillent fort dans l'Église, sans voir de résultats, sans voir de fruits, et des personnes qui peuvent finir par se décourager. Ils peuvent en arriver à croire que la parole de Dieu n'est pas fiable, ou que Dieu n'est pas fidèle. Voyez-vous, le péché a un impact. Le péché décourage le peuple de Dieu. Troisièmement, autre conséquence, Josué lui-même est troublé. Lisez le texte. Remarquez au verset 7 jusqu'au verset 10, la prière de Josué, un homme de Dieu. « Ah Seigneur, pourquoi nous as-tu fait traverser le Jourdain ?» Josué est ébranlé. Cette défaite a fait douter un homme de Dieu aguerri, un homme de la trempe de Josué. Il regrette d'avoir traversé le Jourdain. Il se demande si les autres villes ne vont pas se mettre ensemble, se coaliser pour éliminer son peuple. Wow. Quelles conséquences ! Je dirais que pour nous, aujourd'hui, combien de pasteurs, combien d'anciens, combien de responsables d'église ont aussi été découragés en voyant leurs assemblées faire du surplace ? Combien ont commencé à se poser les questions à cause des défaites cuisantes vécues dans la vie de leurs membres? Pas toujours, mais à l'origine de certains de ces revers, Josué 7 nous révèle qu'il y a parfois des péchés cachés. Des péchés cachés. J'ai fait partie, moi, d'une église où plusieurs missionnaires s'étaient succédés. Des pasteurs, des missionnaires, un après l'autre, toute une liste. Plusieurs avaient quitté, abattus, ils étaient découragés. Et on se demandait ce qui se passait. Et le scénario était toujours à peu près le même, cyclique. Pendant un certain temps, des nouveaux arrivaient dans l'église, le bâtiment se remplissait, puis une crise éclatait, plusieurs quittaient l'église. Et au fil du temps, on a découvert qu'il y avait des péchés cachés dans l'assemblée. Les péchés cachés même dans la vie de certains leaders de l'Église. Manque de pardon, travail au noir, commérage, rivalité, jalousie, conflits non réglés. Et voyez-vous, Dieu ne pouvait pas bénir cette assemblée. Dieu ne pouvait pas. C'est comme, peut-être ça vous est arrivé, je ne sais pas, j'espère que non. C'est comme quand on nettoie sa maison et on cache les saletés sous la moquette. Ça arrive ça, petit coup de balai sous la moquette, personne ne voit, les gens viennent, ah magnifique. Personne ne remarque, mais au bout d'un certain temps, il commence à y avoir des odeurs. Malgré les apparences, l'endroit devient désagréable, ça ne sent pas bon. Un jour, moi, je suis rentré dans la chambre de ma fille. Je ne vais pas la nommer. Je lui fais grâce. J'ai senti de mauvaises odeurs dans sa chambre. Pourtant, on regardait, puis ça avait l'air bien. On a cherché d'où ça pouvait venir. On a ouvert les fenêtres. On a nettoyé, mais ça sentait toujours mauvais. On a finalement découvert que caché dans un sac à dos, puis à l'intérieur du sac à dos, un sac plastique, eh bien, il y avait une vieille banane pourrie. Savez-vous comment on a réussi à se débarrasser des mauvaises odeurs? On a enlevé la banane pourrie. On l'a enlevée, tout simplement. Voilà, on aurait pu mettre plein de produits, Frotter, mais tant que la banane pourrie était là, ça sentait, fallait l'enlever. Quatrièmement, conséquence du péché d'Acan, la faute d'Acan a enfin entraîné sa propre mort et celle de toute sa famille. Imaginez, quel drame. une sanction sévère. Peut-être que vous me dites, c'est injuste ça. Non. Pourquoi je dis ça ? Parce que le butin était caché au milieu de leur tente. Et on peut s'imaginer que la femme et les enfants étaient au courant, mais ils n'ont rien dit. Ça peut nous ressembler à nous. On peut facilement rationaliser nos fautes. Et puis, pensons à la situation. Ils ont récupéré beaucoup de butin à Jéricho, hein. Il y avait beaucoup de butin. Et peut-être qu'ils se sont dit, sur l'ensemble du butin, là, garder quelques pièces d'argent ou un vêtement ou un lingot d'or, c'est pas grand-chose tout ça. Personne va savoir. C'est rien du tout. Et voyez-vous, 36 morts, des troupes découragées, des leaders déstabilisés, une famille complètement décimée. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela ? Quand on fait partie du peuple de Dieu, on ne peut pas pécher d'une manière isolée, en pensant que c'est privé, ça regarde moi et moi seul. Non. Notre péché affecte toute la famille de Dieu. C'est comme quand on a une infection à la gorge ou aux oreilles. Vous remarquez, c'est toute la température du corps qui monte. Hein ? Il y a de la fièvre. Pas seulement là où il y a l'infection, c'est tout le corps. Il y a une interdépendance dans la famille de Dieu. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Notre passage de cet après-midi nous enseigne que le péché nous prive des victoires que Dieu veut nous donner. Dieu ne veut pas qu'on vive constamment dans la défaite. Dieu veut nous bénir individuellement, collectivement, mais le péché nous coupe de tout cela. Et ici, au lieu de suivre les directives du Seigneur, Achan n'a pensé qu'à ses intérêts personnels. Il s'est imaginé avoir une vie meilleure en désobéissant à Dieu. Mais quand on y pense un instant, au fond, c'est aussi le raisonnement conscient ou inconscient qu'on se fait quand on pêche, n'est-ce pas ? On pense quelque part que notre situation va être meilleure comme Achan, lui, pensait une vie meilleure avec ce manteau babylonien ou avec ses pièces d'argent, avec ce lingot d'or. Et pour nous, meilleure avec quoi notre vie ? Avec ce salaire non déclaré ? Avec l'aventure, avec le collègue de travail ? Avec ce temps de travail volé à mon patron ? Meilleure avec quoi ? Ne nous imaginons jamais que désobéir à Dieu va améliorer notre condition. Le péché n'amène que le trouble. Savez-vous ce que le prénom Achan veut dire en hébreu ? Vous savez ? Ça veut dire trouble. Son nom veut dire trouble. Savez-vous ce que le terme vallée d'Achor, on va parler de la vallée d'Achor un peu plus loin dans le message. Savez-vous ce que Achor veut dire ? C'est la même racine, ça veut dire trouble. Trouble. Il y a des personnes autour de nous qui vivent dans le trouble et qui cherchent pourquoi elles sont troublées. Ça se pourrait qu'à la racine de ces troubles, pas toujours, mais ça se pourrait qu'il y ait une faute qu'on essaie de cacher. On se souvient de David qui avait caché son adultère pendant 1 an. Le résultat, des troubles. Une année d'insomnie. Un bébé qui meurt et des divisions dans sa famille et de la violence, trouble. Alors des versets 6 à 10, Josué et les anciens déchirent leurs vêtements. Ils se couvrent la tête de poussière, ils se jettent face contre terre. Ils s'humilient et cherchent la face de Dieu dans la repentance. Ils ne comprennent pas ce qui arrive. Dieu a promis la victoire et ils vivent autre chose, ils expérimentent le contraire. Ça vous est déjà arrivé, ça ? Vous lisez la Bible, les promesses de Dieu, et vous regardez votre vie et il y a un décalage. Et ils se plaignent au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais remarquez au verset 10, comment Dieu répond à Josué. Josué est face contre terre et Dieu lui dit, relève-toi! Relève-toi! Arrête de prier maintenant. Josué aurait dû prier avant de partir au combat. Lève-toi! Le verset 10 nous fait comprendre que dans le projet de Dieu, il y a un temps pour prier et il y a un temps pour agir. C'est comme les paroles du vieux cantique, vous connaissez ? Prie, agis jour après jour, sans brancher, suis ton sauveur. Prie, agis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà fait de l'aviron ou du canoë ? Non ? Alors, je vous pose quand même la question parce que vous allez pouvoir répondre. Comment on fait pour avancer quand on fait du canoë? Hein? Juste une rame? Si tu prends juste une rame, qu'est-ce qui se passe? Tourne en rond. Ça, c'est juste une église qui prie et qui fait rien. Si tu prends l'autre rame, tu agis, mais tu pries pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu tournes en rond. Prie. Agis. Prie, agis. Dans le projet de Dieu, il y a un temps pour prier, un temps pour agir. Et les deux ensemble. Et ici, en présence du péché, Dieu demande à Josué d'agir. Il y a des gens à qui Dieu a déjà révélé une faute dans leur vie. On le sait dans notre conscience. Dieu a mis le doigt, dit ça. Et ces gens peuvent continuer à prier tant qu'ils voudront. Et Dieu va leur dire, comme à Josué et aux anciens, « Relève-toi, fais quelque chose. » Ici, Josué doit régler le problème. Il faut enlever la racine du mal comme la vieille banane pourrie dans la chambre de ma fille. Il faut l'enlever. Alors, comment retrouver le chemin de la victoire si on a péché? Et je peux vous dire qu'on pêche tous, à tous les jours. Comment on fait pour retrouver le chemin de la victoire? L'histoire d'Acan nous montre d'abord que c'est nécessaire de confesser son péché. Si vous regardez au chapitre 7, verset 20, Josué demande à Acan de tout avouer. Confesser, ça veut dire quoi? Ça veut dire se mettre d'accord avec Dieu, tout lui dire sans essayer de trouver des excuses. Les vêtements, les lingots d'or, les pièces d'argent, confessez. Ensuite, l'histoire d'Acan nous montre qu'il faut venir dans la présence de Dieu. Parfois, on peut dire nos fautes à quelqu'un d'autre, un être humain, ou on peut se les dire à nous-mêmes. Mais venir dans la présence de Dieu. Au verset 23 du chapitre 7, voyez, les objets, l'argent, le manteau ont été amenés devant le Seigneur. Tout amené dans la présence de Dieu. Troisièmement, remarquez bien qu'il y a de pardon, de délivrance, que lorsque le péché est jugé. Le salaire du péché, c'est la mort. Acan et sa famille, ses possessions même, vont être détruits. Pour que le péché soit ôté, il faut qu'une mort interviennent. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce texte, nous, cet après-midi, à Saint-Maur-des-Fossés? J'aimerais dire ceci. Nous sommes tous des Acans. Si Josué avait dû se promener dans nos rangs, il se serait arrêté devant chacune des chaises et il aurait dit « C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. » Nous sommes tous des Acan. Comme Acan, on a tous vécu un jour ce genre d'expérience. On a vu quelque chose, on l'a désiré, on l'a pris, on s'est caché. Et voyez-vous, c'est toujours la même chose. Si vous prenez l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin, qu'est-ce qui se passe? Ils ont vu le fruit, ils ont désiré le fruit, ils ont pris, ils sont allés se cacher. Si vous prenez Bathsheba et David, même chose. Il a vu Bathsheba, Il a désiré, et puis il est allé se cacher. Et on peut dire qu'on a tous fait souffrir nos proches, nos familles, notre entourage, à cause de notre péché. Pensez aux paroles qu'on dit parfois méchamment. Pensez à l'égoïsme, aux mensonges même, les choses qui font souffrir. Mais pour nous aussi, cet après-midi, il y a un mémorial. Vous savez ce qui s'est passé? Lorsque Achan et sa famille ont été lapidés, ils ont mis un mémorial, des tas de pierres. Et quand les fils d'Israël passaient par là, ils se souvenaient. Nous aussi, on a un mémorial. Mais savez-vous, ce n'est pas nous qui sommes enterrés là. Notre mémorial à nous, c'est Jésus qui est enterré. C'est la croix du calvaire. Jésus a porté sur lui tous nos péchés. Et après cela, comme au verset 26 le dit, l'Éternel renonça à son ardente colère. Voyez-vous, Jésus a été livré, il est mort. Et la colère de l'Éternel s'est détournée. Notre mémorial Jésus. Quand on croit en Jésus, on passe du chapitre 7 au chapitre 8. Heureusement qu'il n'y a pas que le chapitre 7 dans Josué. Il y a le chapitre 8. On passe du chapitre 7 au chapitre 8. Et comme Josué et tout le peuple, on peut avancer dans le projet de Dieu sans ne plus avoir peur. Il n'y a plus raison d'être abattu. Parce que Dieu a vaincu tous nos ennemis. Je termine avec deux détails. Le premier dans le texte. Remarquez au verset 2 du chapitre 8 ce que Dieu dit à son peuple qu'il vient de purifier. Qu'est-ce que Dieu dit ? Josué 8, 2. « Vous pouvez prendre comme butin les biens et le bétail que vous trouverez. » Waouh ! Dieu bénit son peuple qu'il vient de purifier. Dieu pourvoit à tous ses besoins. Et pensez-y un instant. Si Achan avait attendu, il aurait eu droit lui aussi au butin. Voyez-vous cela ? Il voulait l'avoir à son heure et selon sa préférence à lui. Quelle leçon pour nous ! Au lieu d'essayer d'obtenir quelque chose en dehors de la volonté de Dieu et selon notre timing à nous, attendons-nous à lui. Achan aurait pu avoir le butin s'il avait attendu. Et je termine avec un texte où il est question de la vallée d'Achor. 600 ans après Josué, on parle à nouveau de la vallée d'Achor dans l'Ancien Testament. C'est à l'époque du prophète Osée. Osée prophétise sur Israël avant son exil, c'est au chapitre 2, versets 14 à 16. Il annonce comment Dieu va sortir son peuple de la défaite. Il parle de son peuple comme d'une épouse qui a été infidèle et il lui dit « Je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai les vignes et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Tu m'appelleras plus mon maître. » Voyez-vous ce qui se passe ici ? 600 ans après Josué, la vallée du trouble qui est changée en lieu de bénédiction et de victoire. Et c'est prophétique. Et nous, nous vivons cela à la croix, là où Jésus a été troublé. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Pour que nous, nous soyons délivrés du trouble. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Seigneur, merci pour ton œuvre. Merci parce que tu nous donnes une vallée d'Achor, une porte d'espérance. Là où nous aurions dû mourir, nous aurions dû être enterrés sous le tas de pierres, nous. Et c'est Jésus qui a payé de sa propre vie pour que nous soyons libres. Et pour cela, nous te disons merci, nous te dirons merci jusque dans l'éternité. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, donne-nous d'être un peuple qui te respecte. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir venir à toi avec nos fautes. Donne-nous de ne pas cacher nos fautes. Donne-nous de te confesser. Et donne-nous, Seigneur, de nous attacher à tous les jours de notre vie à Jésus qui a payé le prix pour notre rançon. Prions au nom de Jésus. Amen.